One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nordholz-Geetsroth Lützebüsch.
Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nordholz-Geetsroth Lützebüsch. Mein Name ist Darimas Hedekreiche und ich begleite euch heute für das letzte Jahr zum Podcast One Planet, 20 Futures. Das ist wirklich schon der letzte Episode von unserer ersten Saison von diesem Podcast, wie so es weitergeht. Wir haben uns heute etwas ganz Besonderes überlegt. On a un invité très spécial pour le dernier épisode. On va le faire en français. Mais en fait, c'est la première fois qu'il y a un invité qui ne travaille pas au Luxembourg, mais vous apportez quelque chose de singulier, d'additionnel à notre discours. J'ai déjà produit plein de sujets, j'ai discuté plein de sujets avec beaucoup d'invités. Et aujourd'hui, on va parler de la décroissance. Un sujet qui n'a pas encore été touché, je peux vous le garantir. Timothée Paric, merci d'être venu. Pour expliquer un peu, le CSDD a fêté ses 20 ans d'existence en octobre 2024 et vous êtes l'invité spécial pour une table ronde, pour une discussion ce soir pour donner une conférence. Et merci de vous avoir pris le temps de venir aussi enregistrer un épisode du podcast et d'avoir cette discussion avec moi.
Merci de m'avoir invité.
Je vous présente brièvement. Un peu, et vous pouvez déjà ajouter ce qui vous ne va pas, ce que vous n'aimez pas, et ce que les gens doivent encore savoir sur vous. En fait, vous êtes économiste de formation.
C'est vrai.
Vous avez écrit et défendu une thèse de 871 pages. Je trouve rigolo qu'on lit toujours le nombre de pages avant de lire le titre. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas discuter le titre, mais seulement la quantité du travail.
Oui.
Oui. Bon, le titre, moi je vais le lire quand même, « The Political Economy of Degrowth ». Et ça a fait le buzz. En fait, dans la bulle, ça a vraiment fait le buzz. Tout le monde connaît cette thèse. Et vous avez écrit maintenant, il y a 2 années, un deuxième livre, « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance ». C'est-à-dire, je vous introduis comme le moine soldat de la décroissance.
Oui, c'était pas parti pour être comme ça, mais je le suis devenu avec la popularité de la thèse.
Oui, alors peut-être on commence brièvement. Économiste, quelle a été votre raison pour vous consacrer à l'économie? Parce que ça, c'est quand même votre point de départ. C'était pas l'écologie, c'était l'économie.
Mais des mauvaises raisons déjà. J'ai l'impression qu'on finit le lycée et là on a l'impression qu'on veut étudier le monde qui nous entoure. Et moi à l'époque, jeune étudiant de 18 ans, le monde qui m'entoure c'est le monde des banques, de l'argent, du travail, du commerce international. Donc je me dis je vais étudier l'économie. Maintenant quand j'y réfléchis, je me dis c'est un petit peu bizarre qu'au lieu de penser le monde qui nous entoure, c'est un monde de matière physique, avec des matériaux, de l'énergie, c'est un monde avec des espèces vivantes, un monde biologique, un monde écologique, avec où on respire de l'oxygène, où nos organes, c'est un monde fait de médecine, de plein d'autres choses, qu'on tout de suite on se dise non, l'économie c'est vraiment la chose à savoir. Donc moi je suis allé étudier l'économie pour les mauvaises raisons, et au fil des diplômes, j'ai commencé à creuser et je me suis rendu compte que l'économie que j'avais étudiée à l'université, c'était un sous-secteur, une toute petite partie d'une économie beaucoup plus vaste, l'économie du vivant. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse et maintenant dans mes recherches en économie écologique, c'est-à-dire de répondre à des questions d'économie, mais sans oublier en fait l'environnement qui est autour.
Le changement climatique, vous l'avez perçu très tard, non?
Très tard. J'ai dû attendre un Erasmus en Suède, à l'université d'Uppsala, où j'ai pris l'un de mes premiers cours interdisciplinaires sur les problématiques environnementales. Quelque chose qu'on n'avait même pas en option, en fait, dans ma licence d'économie, qui était vraiment très mainstream. Et là, j'ai pris une gifle monumentale. C'est-à-dire qu'en tant qu'économiste, nous, on travaillait sur la croissance, la compétitivité, la productivité, l'inflation, les crises financières, voilà, ça c'était nos petits problèmes. Et là d'un coup, je découvre un problème gigantesque. J'avais l'impression, avant, moi j'étais en train de faire mon petit Rubik's Cube sur le Titanic, et là je découvre en fait que le problème c'est pas le Rubik's Cube, le problème c'est que le Titanic il fonce vers un iceberg. Et donc après cette rencontre avec le changement climatique, je me rends compte que waouh, même le changement climatique c'est qu'un problème. Il y avait aussi l'acidification des océans, il y a aussi l'érosion de la biodiversité, Il y a aussi tout plein de problématiques liées aux produits chimiques, liées à nos prélèvements en eau. Et donc là, je découvre en fait, pour moi, les véritables problématiques économiques du XXIe siècle.
Une gifle pour beaucoup d'économistes est déjà le mot décroissance. Comment est-ce que quelqu'un qui défend la décroissance peut avoir une vision du futur?
Ben, moi déjà, je viens de l'économie et je viens des théories de la croissance. Donc moi, j'ai commencé par être un spécialiste de la croissance économique. Et donc, en tant qu'économiste, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la croissance, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi est-ce qu'un pays va réussir à croître et un autre, qu'est-ce qui se passe justement quand on a une crise économique et un pays va venir se contracter. Et en étudiant un petit peu la dépendance en fait des économies vis-à-vis de l'énergie et des matériaux, de comprendre que cette croissance, elle n'était pas immatérielle, elle n'était pas dématérialisée. Je me suis posé une question, je me suis dit, bah tiens, si on a ce mouvement de croissance qui vient vraiment alourdir l'empreinte écologique d'un pays, et si on veut vraiment faire baisser cette empreinte, est-ce qu'on ne pourrait pas explorer l'hypothèse d'une décroissance? Donc moi, ça me paraissait logique, même en tant qu'économiste. Croissance qui alourdit l'empreinte écologique, décroissance qui va venir alléger l'empreinte écologique. Donc instinctivement, ça paraissait pas très controversé. Si on étudie la croissance, bah bien sûr, on peut étudier son contraire, la décroissance. Je me suis rendu compte que c'était en fait beaucoup plus controversé que ça. Et ça fait maintenant 10 ans que j'étudie donc les théories de la décroissance.
Dans le dernier rapport du GIEC, IPCC, le mot croissance apparaît 15 fois et le mot décroissance aucune fois. Quel argument principal pour déconstruire le paradigme de la croissance des politiques libéraux? Est-ce qu'il y a un langage que vous rencontrez qui a plus de réception?
Déjà, petite correction, dans le dernier rapport du GIEC, donc l'AR6, oui. Le mot décroissance apparaît plusieurs fois, à la fois dans le rapport du Working Group 2 et du Working Group 3. Non seulement le mot décroissance apparaît, mais il apparaît cité avec beaucoup d'articles de littérature sur la décroissance. On parle aussi de post-croissance. Donc le dernier rapport du GIEC, justement, c'est le moment où une grande instance scientifique reconnaît, parce que le rapport du GIEC fait des synthèses de littérature, où les autrices et les auteurs du GIEC viennent chercher tous les concepts utiles pour penser le changement climatique. Donc quand le rapport du GIEC, dans son rapport, vient parler de décroissance et de post-croissance, bah ça veut dire en fait que c'est un concept scientifique aujourd'hui qui a de la valeur pour ces discussions. Donc moi justement, ce que j'ai observé depuis 10 ans, il y a 10 ans à la décroissance, c'était des théories très niches, très hétérodoxe, comme on dit en économie, c'était des trucs, il n'y avait pas forcément de livres de best-seller, il n'y avait pas de podcast, on ne pouvait pas écouter ça à la radio, on ne pouvait pas regarder des documentaires Arte sur la décroissance, c'était quelque chose vraiment très obscur. Ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait peut-être une trentaine d'articles scientifiques publiés chaque année, c'est pas beaucoup sur le sujet. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 1200 articles scientifiques qui ont été publiés sur la décroissance. C'est vraiment un milieu académique en pleine effervescence. Il y a énormément d'étudiants qui décident d'écrire des mémoires sur la décroissance, des doctorats sur la décroissance. Et on a parlé du rapport du GIEC. Le prochain rapport de l'IPBES sur la biodiversité aura une section sur la décroissance. C'est moi qui l'ai écrite, donc je peux être sûr qu'elle sera là. Donc là aussi, ça veut dire que maintenant, les théories de la décroissance font partie intégrante de cette espèce de panorama des concepts autour du développement durable.
Mais est-ce que la décroissance ne fait pas peur dans une société comme le Luxembourg où on dit qu'on n'a pas de choix, qu'on doit avoir une croissance du GDP, du PIB, parce que sinon on ne peut pas financer les retraites, on ne peut pas financer notre système social. C'est-à-dire cette croissance, elle est inhérente à notre mode de vie.
Alors il y a, pour moi, on a peur des mauvaises choses. C'est-à-dire que d'un côté, on a des scientifiques qui nous disent « Nous sommes en train de dépasser les limites planétaires, ce qui amène une dégradation potentiellement irréversible des écosystèmes, ce qui fait qu'on va manquer d'eau, ça sera plus difficile de faire pousser de la nourriture, on va se retrouver avec des événements météorologiques extrêmes, des inondations, des tempêtes, et tous ces événements vont toucher les populations les plus vulnérables. » Donc ça, c'est assez effrayant. Ça fait quand même le jour d'après, ça fait film apocalyptique, hollywoodien, ça fait peur. On imagine, waouh, on va plus pouvoir se nourrir, ça va devenir très difficile de trouver des ressources. Il va y avoir des conflits géopolitiques qui vont s'organiser autour de ces ressources qui deviendront de plus en plus rares. Là, on est vraiment dans du Black Mirror. Là, c'est vraiment de la belle dystopie apocalyptique. À côté de ça, quand on compare un PIB qui baisse, est-ce que ça devrait vraiment faire peur? Déjà, 99,9% des gens ne savent pas ce que c'est que le PIB véritablement. Même la plupart des économistes ne savent pas le calculer parce que c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir étudié la comptabilité nationale. Même en France, il y a juste une équipe d'une trentaine de personnes qui sait calculer le PIB. Donc, le PIB, en plus, c'est un indicateur qui est assez vieux. Il a été créé dans les années 1930 aux États-Unis par quelqu'un, un statisticien biélorusse, Simon Kuznets, qui, dès qu'il a créé le PIB, il a surtout dit au Congrès américain « Attention, je vous ai créé un indicateur de crise, ne l'utilisez pas pendant une période qui n'est pas une période de guerre et une période, quand, une fois que vous êtes sorti de la crise, il faut avoir des indicateurs qualitatifs. » On ne l'a pas écouté. Donc aujourd'hui, en fait, notre peur, elle est mal placée. Que le PIB, il augmente ou qu'il baisse, ce n'est pas vraiment important comparé à l'importance de maintenir en fait, l'habitabilité de la Terre. Parce que si nous perdons en fait, les écosystèmes et tous les services qu'ils nous apportent, qui sont absolument nécessaires pour faire fonctionner une économie, qu'on ait un PIB énorme ou tout petit, ça ne changera rien en fait. On ne pourra plus faire fonctionner l'économie.
De Crypto Showcase.
L'esprit critique, je crois que vous le connaissez, c'est Leif Phillips, un écrivain scientifique. Il a écrit « Je dirais également que la décroissance diagnostique fondamentalement mal la cause du changement climatique et, par conséquent, repose sur une théorie du changement médiocre. »
Bon, déjà, c'est beaucoup d'honneur de l'appeler un écrivain scientifique. Il faut quand même se concentrer sur le fait que pour être scientifique, il faut travailler à l'université pour faire de la recherche scientifique. Quand on écrit juste des livres comme ça, notamment les ouvrages de Leif Phillips, on est juste essayiste ou auteur, je vais bien. Donc Leif Phillips, ça fait des années qu'il caricature un petit peu la décroissance sans vraiment jamais rentrer dans le vif du sujet. La décroissance, on l'a vu, c'est une littérature scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas une idée générale, on ne peut pas en parler de la décroissance dans les années 70, dans les années 2000. C'est des modèles, des hypothèses, des théories, des concepts précis, et c'est vraiment une littérature qui s'est beaucoup développée. Donc la décroissance aujourd'hui, elle a beaucoup changé par rapport à la décroissance en France quand elle a émergé en 2002, et avant ce qu'on appelait l'objection de croissance au début des années 70. Tout ça, c'est des théories qui, bien sûr, sont imbriquées, mais sont différentes. Donc là, Leif Phillips, qu'est-ce qu'il nous dit deux choses. Peut-être que la décroissance, elle n'a pas le bon diagnostic du problème. Peut-être que ce n'est pas la croissance, le problème. Alors, ça, c'est un débat qui remonte à longtemps, au moins au début des années 2000, où les gens disaient « Oui, mais la croissance, ce n'est pas un problème parce que les pays riches, ils vont arriver à verdir leur croissance. » C'était le concept du découplage. Ils vont arriver à continuer à croître et baisser l'empreinte écologique. C'était une hypothèse qui a émergé en sciences économiques au début des années 90, et pourquoi pas, ça aurait pu être vrai. Mais aujourd'hui, on a au moins 20 ans, voire 30 ans de données où on peut observer, voir ce qui s'est passé. Le résultat, c'est qu'aucun pays au monde n'a réussi à découpler sa croissance économique de son empreinte écologique totale. Les seuls trucs qu'on arrive à observer, c'est bien sûr qu'il y a eu des baisses, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un type de découplage. Et même ces baisses-là, on voit qu'elles sont minuscules. C'est-à-dire que certains pays, le Luxembourg en fait partie, ont réussi à faire baisser légèrement leurs émissions de gaz à effet de serre, mais pas suffisamment. Donc on voit que la croissance, elle s'est un petit peu verdie, mais elle ne s'est pas complètement sortie d'affaire. Donc c'est pour ça que si on n'arrive pas à verdir la croissance, ça ne nous laisse pas 12 000 choix. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à verdir la croissance, il faut forcément agir sur les niveaux de production et de consommation. Après, bien sûr, agir sur la production et la consommation, ce n'est pas un bouton au ministère de l'économie. C'est énormément d'instruments à l'échelle des ménages, des entreprises et du gouvernement pour arriver à décider de renoncer à produire certains biens et services qui sont très intenses en ressources et aussi à renoncer à les consommer. Donc c'est quelque chose, pour moi, aujourd'hui, avec les preuves qu'on a, et ce sont des preuves justement qui sont communiquées dans le dernier rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC qui en fait la synthèse de dire « Nous observons dans certains pays un découplage partiel concernant les gaz à effet de serre, mais ce découplage n'est pas suffisant. » Et d'ailleurs, le rapport du GIEC montre aussi que aucun découplage n'est observé concernant l'utilisation des matériaux. Ça, c'est absolument fondamental parce que les gaz à effet de serre, on va dire, c'est le découplage le plus facile. suffit d'arrêter d'utiliser des énergies fossiles et d'utiliser des énergies renouvelables. En théorie, c'est facile. Mais comment est-ce qu'on fait pour produire et consommer plus sans utiliser plus de matériaux? Ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas, on passe pas de matériaux fossiles aux matériaux renouvelables. Ces matériaux, ça reste toujours des matériaux. Donc ça, le fait qu'aujourd'hui, on ait des pays avec un énorme PIB, donc qui produisent et consomment énormément, et donc une énorme empreinte qui ne s'est pas découplée ou qui ne s'est pas découplée assez vite. Et donc l'hypothèse de la croissance verte, elle est de moins en moins crédible plus on avance. Surtout parce que plus on avance, donc là on a 30 ans de preuves empiriques pour nous montrer que nous n'avons pas réussi à verser la croissance, mais l'urgence écologique, malheureusement, eh ben, elle s'est accélérée parce que les écosystèmes se sont dégradés plus vite que prévu, malheureusement, et parce qu'on le sait bien, hein, par exemple pour le changement climatique, c'est une histoire de budget. Donc il faut limiter un budget, donc il faut atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible pour limiter l'utilisation du budget qui reste. Et donc, bien sûr, la transition dans les années 90, on avait beaucoup de temps, donc on pouvait se permettre d'avoir des hypothèses, de dire peut-être que le progrès technologique va nous sauver. Mais là maintenant, qu'on n'a plus 30 ans, mais 5 ans, ça paraît un petit peu difficile de se dire « Oui, le progrès technologique va nous sauver en 2025. » Là, on se dirait « Mais comment ?»
Une autre critique de la décroissance est que l'être humain, il veut toujours avoir plus, que c'est dans notre nature de vouloir grandir, croître et tout ça.
C'est, moi, je trouve ça bizarre parce que la première expérience qu'on fait en tant qu'être humain, c'est celle de la croissance. Donc, on est hein, tout petit. Et donc, on va gagner en centimètres et en kilos jusqu'à l'âge de 25 ans, on va dire, où là, magie, on arrête de grandir. Et ce n'est pas un désastre. C'est-à-dire que moi, je fais 1m80 depuis que j'ai 25 ans. À 26 ans, 27 ans, je ne me suis pas dit, il faut absolument que je gagne en centimètres, il faut relancer la croissance des centimètres de Timothée Paris. Non. En fait, la croissance quantitative s'est arrêtée. Et maintenant, je suis passé à un développement qualitatif. C'est-à-dire que j'ai plus d'amis, j'ai plus de connaissances, j'ai plus d'expérience de vie. Et c'est ça qui vient définir mon bien-être. Mais mon bien-être n'est plus corrélé à mes kilos et à mes centimètres. Ça serait un petit peu bête. Donc là, notre erreur, c'est de penser que la croissance, c'est un régime permanent. Il n'y a aucun système qui croit à jamais. Le seul organisme vraiment qui croit sans aucune limite et sans jamais s'arrêter, c'est les cellules cancéreuses. Et même elles, ça finit par s'arrêter quand elles ont dégradé tout leur environnement. Donc, même dans l'économie du vivant, il y a ce certain sens de la proportion où on vient croître et on s'arrête à partir du moment où on atteint la maturité, la bonne taille en fait, qui nous permet de pouvoir prospérer. Et on voit, moi j'invite les gens à nous regarder, pensez à n'importe lesquels de vos besoins, que ce soit mon besoin de m'habiller. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une croissance de 2% du nombre de vêtements par an? Non, j'ai besoin d'avoir assez de vêtements pour pouvoir m'habiller de manière correcte. Si j'en ai pas assez, donc je suis en situation de sous-consommation, il faut en effet que j'en ai plus. Si j'en ai trop, ben je peux me permettre d'en avoir moins. Pareil pour les médicaments. Est-ce qu'il faudrait dire, oui, on va produire tous les ans 5% fois plus? Non, les médicaments, le jour où je suis malade, il faut juste que j'ai accès à un médicament qui puisse me permettre de retourner à la pleine santé. Donc on voit que la satisfaction des besoins, anthropologiquement, c'est quelque chose qui répond à des seuils de satiété. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui se crée, on satisfait le besoin, c'est terminé. Donc les processus économiques, si l'économie c'est l'organisation sociale qui permet de contenter, de satisfaire des besoins, ça devrait être aussi quelque chose d'assez éphémère. C'est-à-dire de se dire, ah bah tiens, s'il y a un besoin qui apparaît, par exemple, ah bah tiens, aujourd'hui, on aimerait se déplacer plus en vélo. Peut-être que nous n'avons pas les vélos, ou peut-être qu'il n'y a pas les vélos électriques, cargo pour les enfants, très bien, on va les produire. Mais l'objectif, ce n'est pas de produire de plus en plus de vélos cargo jusqu'à ce qu'on en ait 12 à la maison. L'objectif, c'est de venir contenter un besoin qui est fini. Et donc là, on se rend compte que si tous les besoins sont finis, pourquoi est-ce qu'on a une croissance infinie comme objectif de développement macroéconomique? C'est une vision en fait, du futur qui est assez pauvre, parce que la croissance, c'est juste l'augmentation. C'est, on va dire, le but de l'économie, c'est qu'elle soit de plus en plus grosse. C'est un peu comme du culturisme, de la muscu vraiment financière, de se dire on va bien muscler notre PIB et chaque année il faut que ce soit plus gros, plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. C'est une vision assez pauvre du développement.
top flop.
Qu'est-ce que vous ne voulez plus devoir expliquer?
Alors, moi, c'est le fait que la décroissance, ça soit comme une récession, ou comme une pandémie, ou comme les effets d'une guerre ou d'un embargo. On comprend bien qu'il y a plein de types de croissance différentes. De la même manière, il y a plein de types de contractions économiques différentes. Et on peut imaginer donc une récession, par exemple, liée à une pandémie, c'est un choc, on dit exogène en économie, il arrive de l'extérieur, on ne peut rien y faire, on ne l'a pas vu arriver, et on s'y adapte. Et très souvent, bah, c'est une adaptation douloureuse. On est forcé de fermer des entreprises, on est forcé de mettre des personnes au chômage, on est forcé parfois de faire des politiques d'austérité au niveau des services publics, ce qui va venir exacerber en fait des situations de pauvreté pour les populations les plus vulnérables. C'est quelque chose de terrible. Mais ça, on peut imaginer aussi, on pourrait le faire dans un contexte où on décide de ralentir de manière coordonnée et organisée. Moi, l'analogie que je préfère, c'est la différence entre le régime et l'amputation. Si on le mesure en termes de kilos, perdre 20 kilos, je peux le faire en 2 ans, en assainissant mon régime, en faisant du sport, ou je peux me couper la jambe tout de suite. Je perdrai 20 kilos, ce sera la même chose. Donc là, pareil, décroissance-récession, si on regarde le PIB, on se dit, ah bah, c'est la même chose, c'est une économie qui devient plus petite. Mais non, en fait, côté récession, c'est une amputation économique, un choc externe qui va avoir des conséquences désastreuses. Et la décroissance, c'est plus un régime économique. Elle va être sélective, elle va se faire graduellement pour alléger l'empreinte écologique, elle va se faire dans un esprit de justice sociale pour protéger les plus vulnérables. Et les deux phénomènes n'ont vraiment rien à voir. Donc j'ai un petit peu l'impression que. Et ça revient à la première question, quand on dit « Ah, la décroissance, c'est comme la récession !» On reste un petit peu dans cet imaginaire de la peur, de se dire « Si une économie ne va pas croître à jamais, eh ben c'est mal. Quelque chose de problématique va se passer. » Et ce qui est un petit peu naïf, parce que les gens, en plus, peut-être ne savent pas que toutes les économies à haut revenu sont dans des situations de ce qu'on appelle une stagnation séculaire. Donc elles sont en train d'arrêter de croître de toute manière. Donc si on ne vient pas les réformer et repenser un peu notre modèle de développement, elles seront coincées dans une récession permanente. Amputation permanente. Donc je préfère organiser un régime pendant une décennie, quelques années, pour avoir une économie qui puisse prospérer sans croissance sur le très long terme, plutôt qu'avoir une économie dépendante de la croissance, mais qui ne puisse plus croître, qui va se retrouver chaque année à devoir amputer un orteil, un doigt ici et là.
Une autre réalité du Luxembourg, c'est que le stress des gens a augmenté considérablement les dernières années. En même temps, si on utilise votre titre de livre, « Ralentir ou périr », ça fait peur, ralentir, parce qu'on veut avoir moins de stress, tout le monde est stressé, mais on a peur de ralentir. Comment est-ce que ça va ensemble? Qu'est-ce qui nous fait peur, en fait?
Alors, déjà, c'est assez paradoxal, parce que les gens sont stressés souvent parce qu'ils tombent dans ce qu'on appelle la pauvreté temporelle. La pauvreté temporelle, c'est quand on n'a pas assez de temps pour faire toutes les choses qu'on a envie de faire. Et donc, on se retrouve en fin de journée, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ci, et donc, on est stressé. Et souvent, on a ça parce qu'on travaille trop. Donc ça, c'est aussi l'un des côtés négatifs de la croissance économique, c'est pour produire de plus en plus de choses, il faut mettre les heures de travail pour pouvoir les produire. Pour consommer de plus en plus de choses, il faut pouvoir les acheter. Pour avoir ce pouvoir d'achat, il faut travailler de plus en plus pour pouvoir gagner l'argent qui nous permette de consommer. Donc on voit que c'est un petit peu un cercle vicieux. Et ralentir, c'est se dire, ah bah tiens, est-ce que je ne vais pas essayer de libérer des heures? De se dire, je vais passer moins de temps peut-être à produire des marchandises dans une entreprise sur un marché, donc ce qui est mesuré par le PIB et la croissance, mais ça va libérer des heures pour peut-être participer à la vie associative de mon quartier, passer plus de temps avec mes enfants, lire des livres, démarrer une chorale, ou je sais pas, toutes ces choses qui sont pas comptées dans le PIB, mais qui contribuent à notre bien-être. Qui contribuent non seulement à notre bien-être, mais à ce qu'on appelle aussi des processus de reproduction sociale. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler, il faut être en bonne santé mentale, il faut avoir de l'énergie. Si on surtravaille, on a un burn-out individuellement. Et bien ça peut se passer aussi à l'échelle d'une communauté. Si la communauté, en fait, elle n'a pas d'association, elle n'a pas de vie politique, elle n'a pas de vie artistique, et bien au bout d'un moment, ces services socio-systémiques, en fait, ils se dégradent, un petit peu comme un écosystème. Et ça peut mener à l'équivalent de ce qu'on appelle une récession sociale, c'est-à-dire un burn-out collectif, où en fait les voisins commencent à se détester, on ne se parle plus, il y a des divisions politiques qui sont insurmontables, l'accès à l'art devient extrêmement élitiste, et ça en fait c'est mauvais même pour la croissance, parce que les gens ensuite ils sont déprimés, ils ne peuvent plus produire même les marchandises pour un marché. Donc le ralentissement, ici on a une belle double coïncidence, qui est assez heureuse, de se dire non seulement on doit ralentir pour alléger l'empreinte écologique, ça c'est une certitude, on l'a vu, parce que nous ne pouvons pas verdir la croissance, mais ce ralentissement risque d'avoir des co-bénéfices sociaux. Et d'ailleurs, ça, il y a tout un chapitre du dernier rapport du GIEC qui vient étaler un nombre impressionnant de preuves scientifiques pour montrer que le ralentissement et les baisses de consommation peuvent avoir énormément de co-bénéfices sociaux à partir du moment où elles sont bien organisées. Par exemple, si on arrive à travailler moins, faire plus de télétravail, peut-être réorganiser aussi l'aménagement d'un territoire pour se permettre d'utiliser moins la voiture, on va faire baisser la pollution de l'air en ville, la pollution sonore, les accidents de la route. Et donc, on voit ici que ça va venir créer du bien-être, ça va faire baisser les dépenses contraintes liées au traitement des maladies cardiovasculaires liées à la pollution de l'air, ça va alléger aussi donc, les budgets de santé de l'État. Donc, on voit qu'il y a plein de cercles vertueux qui sont liés en fait, à tes stratégies de ralentissement où on va juste éviter la création ou l'aggravation d'un problème.
Le Luxembourg est une société multiculturelle et internationale. Pensez-vous que cette diversité culturelle pourrait être un atout ou un obstacle à l'adoption de la décroissance?
Je ne sais pas si ça a vraiment un rapport, parce que la décroissance, c'est juste le résultat agrégé de plein de décisions, de renoncement productif et de déconsommation. Donc de se dire, par exemple, si on regarde l'alimentation, donc l'alimentation c'est une part importante de notre empreinte carbone, et quand on regarde dans l'alimentation, c'est les produits carnés et surtout le bœuf qui représente près de la moitié des émissions de la part alimentaire. Donc en tant qu'économiste écologique, si on veut baisser l'empreinte carbone, c'est simple, il faut produire et consommer moins de viande et surtout de bœuf. Donc là on voit c'est des changements complexes, mais que ça s'applique vraiment dans un endroit ou dans un autre, je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance. Ce qui va varier en fait, c'est d'un pays à l'autre, d'un territoire à l'autre, même d'une ville à l'autre, d'un ménage à l'autre, les choix vont être différents parce que les priorités sont différentes. Ce qu'on a en commun, c'est la finitude de nos budgets écologiques. Quand on nous dit, par exemple, à l'échelle du Luxembourg, vous avez un budget carbone en nombre de tonnes équivalent à votre population. En France, on en a un, en Suisse, on en a un autre. Et on ne peut pas consommer plus que ces tonnes. Mais après, on a le droit de les utiliser pour faire différentes choses. Peut-être qu'un pays, un ménage, une entreprise, une communauté va décider, nous, ce qui est très important pour nous, c'est cette chose-là. Et donc, on va utiliser nos tonnes de carbone pour faire ça. Et dans un autre pays, ça va être quelque chose d'autre. Peut-être un ménage décide, moi j'aime tellement le bœuf que je préfère arrêter de prendre l'avion, vendre ma voiture, sortir toute mon épargne d'une banque qui investit dans des énergies fossiles, vraiment vivre avec moins de chauffage, vraiment pour continuer à partir du moment où on ne dépasse pas son budget carbone, personne ne pourra vous juger pour ça. C'est des décisions en fait économiques, d'allocation. On fait des décisions d'arbitrage d'un budget fini. Et je ne pense pas qu'il y ait une recette miracle. Justement, ce qui est important, c'est de pouvoir discuter et identifier en fait, les choses. Moi, c'est un petit peu mon travail en tant qu'économiste écologique, de se dire quels sont les biens et services qui sont extrêmement lourds écologiquement, mais dont on pourrait se passer assez simplement. Donc là, par exemple, pour l'exemple du bœuf, on voit qu'on surconsomme du bœuf dans beaucoup de nos sociétés occidentale, on en mange trop, ce qui crée des problèmes de santé, ce qui alourdit les comptes publics, ce qui crée donc des tensions financières. Là, si on se dit, si on arrive à juste manger moins de viande rouge, non seulement on allège l'empreinte écologique, trop bien, mais aussi on vient réduire donc les problèmes de santé. Niveau bien-être, on adore ne pas être malade, on est d'accord, ça je pense que c'est assez universel dans toutes les sociétés. On allège ça et en tant qu'économiste, public, on adore aussi ne pas avoir beaucoup de frais de santé pour un pays, surtout un pays qui a des problématiques de vieillissement, de retraite. On adore faire sortir des problèmes de santé qu'on pourrait éviter. Donc là, on voit, c'est assez facile. Par contre, il y a d'autres problématiques qui peuvent être difficiles. Des personnes, par exemple, qui habitent
très très loin de là où ils travaillent ou qui doivent amener leur enfant à la crèche, qui n'ont pas accès à un vélo cargo, il n'y a pas de piste cyclable, là les arbitrages sont différents. Donc on ne peut pas donner une recette miracle qui marche, mais la règle principale vraiment qui devrait être considérée comme inviolable, c'est ce principe de se dire notre empreinte écologique ne peut pas dépasser la biocapacité des écosystèmes. Sinon on empiète sur le budget écologique de quelqu'un d'autre, aujourd'hui dans les pays les plus pauvres, ou des générations futures.
Une question peut-être un peu plus, encore plus méta. Il y a beaucoup de luttes dans notre société. Est-ce que la décroissance favorise-t-elle la convergence des luttes?
Alors moi, le concept de décroissance, je l'ai toujours trouvé très spécifique. On l'utilise entre économistes hein, pour faire des scénarios de décroissance dans un pays. Et c'est vrai, quand on définit la décroissance comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, bon, c'est quelque chose de très spécifique, mais le mot, il n'est pas très populaire. Il est aussi trop spécifique dans le sens où la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la croissance économique, donc parler de décroissance. Il y a des mots que je trouve quand même mieux pour organiser les convergences. L'économie du donut de Kate Raworth, par exemple, l'économiste britannique, c'est très très bien ça. L'idée d'avoir plafond écologique, planchers sociaux et le développement, le but, c'est de rester au milieu. Ça, je pense que ça parle à plus de gens. Il y a des concepts aussi comme l'économie sociale et solidaire en France, qui est beaucoup plus à même de faire travailler les acteurs, par exemple, les tiers-lieux, les coopératives, qui sont déjà un petit peu dans l'économie du futur. Et eux, quand on leur parle de décroissance, ça ne leur parle pas, parce qu'ils se disent « mais nous, en fait, notre secteur, on fait déjà des choses qui doivent s'étendre ». Le convivialisme aussi, qui est une sorte de philosophie anti-néolibérale qu'on a en France. Donc ça aussi, c'est imaginer une économie conviviale ou convivialiste, c'est peut-être un concept beaucoup mieux pour faire des alliances que décroissance. Donc moi, j'ai un petit peu tendance à diviser, de dire la décroissance, on le garde un petit peu pour parler de choses académiques. En tant qu'économiste, on ne devrait pas avoir peur de parler de décroissance de la même manière qu'on n'a pas peur de parler de croissance. C'est pareil. Il y a le terme de post-croissance qui est aussi un peu plus large. La post-croissance, ça vient rassembler en fait toutes les théories qui partent d'une critique de la croissance. Donc l'objection de croissance des années 70, la décroissance soutenable et conviviale française du début des années 2010. Et donc post-croissance, c'est pas mal aussi parce que c'est plus englobant. Par exemple, le donut de Kate Raworth, qui est une approche critique envers de la croissance, elle fait partie de la grande boîte à outils des théories de la post-croissance. L'écosocialisme, par exemple, et le communisme décroissant japonais de Koei Saito, il fait aussi partie de la boîte à outils. Est-ce qu'on parlerait de communisme décroissant au Luxembourg? Je pense que là, les gens, ils commenceraient à avoir un petit peu peur. Donc, il faut aussi se dire que le but des concepts académiques, ce n'est pas de créer des guerres d'opinions et de faire des débats. Non, le but, c'est de stimuler des conversations. La décroissance, aujourd'hui, c'est un concept utile parce que ça nous permet à nous, économistes, de nous remettre un petit peu en question et de se dire, ah ben tiens, est-ce qu'on n'a pas accordé un petit peu trop de valeur à la croissance économique par rapport à d'autres objectifs sociaux et écologiques? Mais une fois qu'on aura réalisé ça, bon, on créera un autre concept qui stimulera d'autres discussions.
Fakten, Fakten, Fakten.
Quel fait ou quel chiffre est-ce que je dois mémoriser?
Alors, ça va être assez compliqué parce que c'est un chiffre en trois temps. Okay. C'est un chiffre sur les inégalités carbone.
Oui.
Alors, je donne le chiffre et après je l'explique. Le chiffre, en fait, il vient mesurer qui émet du carbone à l'échelle de la planète aujourd'hui. Donc, comment se divise un petit peu l'utilisation de notre budget carbone? On a les 10% les plus riches. À l'échelle de la planète, ça fait à peu près 700 millions de personnes. Alors, eux, ils utilisent près de la moitié du budget carbone mondial. Ce sont des personnes riches, donc 10%. Ils possèdent aussi 76% de la richesse mondiale. Donc, à l'échelle du monde, la richesse est très concentrée. Donc, ils possèdent énormément de richesses. Et parce qu'ils ont énormément de richesses, ils peuvent se permettre de produire et consommer beaucoup. Et donc, ils émettent beaucoup. Et ces personnes, elles sont assez bien loties parce qu'elles ne vont subir que 3% des dégâts liés au changement climatique. Alors que si on regarde de l'autre côté de la balance, la moitié de la population la plus pauvre. Donc là, on a 4 milliards de personnes. Et là, la situation est inversée. Donc les 4 milliards de personnes les plus pauvres à l'échelle de la planète ne possèdent que 2% du patrimoine mondial. C'était 76% pour les personnes les plus riches. Donc 2%, elles n'émettent que 12%. Donc 12% divisé par 4 milliards, ça fait une empreinte par habitant qui est toute petite, hein, comparée aux 10%, la moitié sur, 700 millions. Mais ces personnes-là, qui sont les plus vulnérables, les moins riches et qui émettent le moins, vont faire face à 75% des impacts du changement climatique. Ce chiffre, j'aime bien le rappeler, c'est un chiffre, il y a des inégalités carbone, mais les ordres de grandeur sont similaires pour l'eau, les impacts sur la biodiversité, le sol, les matériaux. Pour rappeler que la décroissance, c'est vraiment une stratégie de régime pour les pays riches seulement. Donc la décroissance, c'est de se dire on va se concentrer sur ces régions qui peuvent se permettre de vivre avec moins. Et en fait, les ressources qu'on va libérer, ça va permettre d'avoir des processus de développement dans des régions du monde qui sous-consomment et sous-produisent, qui vont avoir besoin d'avoir accès à plus d'énergie, plus de matériaux, plus de mètres carrés constructibles, bah, non seulement parce que ce sont des régions où des gens vivent encore en pauvreté, donc il va falloir les sortir de la pauvreté, et aussi parce qu'ils vont devoir s'adapter au changement climatique, ce qui va demander des ressources en plus. Donc là, on voit la décroissance, c'est un peu une stratégie à deux vitesses. On va dire décroissance dans les pays riches, pour permettre à tous les pays du sud global d'avoir une véritable possibilité de développement, parce que sinon, si aujourd'hui nous continuons à dilapider un petit peu les, par exemple le budget carbone, hein, qui sera le budget carbone à 1,5 degré, qui sera terminé dans 5 ans à consommation actuelle, il n'y aura plus de budget carbone, et ben les barils de pétrole que nous allons utiliser par exemple au Luxembourg pour faire rouler des voitures un petit peu plus grosses qu'on avait il y a 10 ans, ce seront des barils de pétrole qu'on ne pourra pas utiliser pour construire des câbles électriques ou des écoles dans des pays qui en ont besoin de manière assez critique. Donc là, on voit quand même ce chiffre, il nous amène sur une question éthique.
Justice globale. Climatique, c'est la justice climatique.
De justice climatique.
Elle fait beaucoup peur et il y a beaucoup de gens qui alors disent « oui, mais on doit laisser les pays se développer ».
Eh bien c'est ça, pour qu'un pays se développe, il faut avoir accès à de l'énergie et des ressources. Nous d'ailleurs, les historiens économiques, ont très bien étudié ça ces dernières années. Pourquoi est-ce qu'un pays comme la France, le Luxembourg, tous les pays à haut revenu, pourquoi est-ce que nous sommes devenus riches? C'est pas parce qu'on a des super idées, non. C'est parce qu'on a eu accès à énormément d'énergies fossiles, énormément de matériaux, et surtout on a eu accès à ces énergies et ces matériaux peu chers. Ils n'étaient pas chez nous, hein. On allait les chercher ailleurs, souvent à travers des stratégies impériales, coloniales, très violentes, et donc on a eu accès en fait à toutes ces ressources gratuitement. Ça nous donnait un gros boost de développement. Et aujourd'hui, on dit, ah ben machin, développez-vous. Mais les pays du Sud, ils vont aller les chercher où les ressources naturelles? Il faudrait une autre planète avec des pays encore plus pauvres qui pourraient coloniser pour... Ça ne marche pas. Aujourd'hui, la seule stratégie de développement dans les pays du Sud, c'est une stratégie basée sur le partage d'un budget fini. Et c'est d'ailleurs la synthèse d'Olivier de Schutter, qui est le représentant aux Nations Unies sur les sujets de la pauvreté, qui vient de publier un rapport, il y a 2 mois, qu'il a appelé « Éradiquer la pauvreté au-delà de la croissance ». Et c'est son message principal. Il dit la stratégie de se dire « Ah bah tiens, il faut les faire croître pour qu'ils rattrapent » ne va pas fonctionner, parce qu'on n'aura pas assez de ressources naturelles. Là, aujourd'hui, l'éradication de la pauvreté, elle doit se faire en parallèle de l'éradication de la richesse extrême. Alors, je sais que c'est un petit peu nouveau. Nous, les économistes, on n'a pas l'habitude de penser avec des contraintes comme ça de ressources finies. Mais aujourd'hui, malheureusement, sur les décennies à venir, il va falloir penser un petit peu de ce jeu à somme nulle, que si on veut pouvoir utiliser de l'énergie, des matériaux dans les pays qui en ont vraiment besoin, eh ben, il va falloir réduire son usage dans des pays qui en ont moins besoin.
Mais c'est un shift paradigme radical.
C'est assez radical, mais en même temps, ça ne me paraît pas non plus infaisable. Et quand on regarde, enfin moi, ça fait que 10 ans que je travaille sur le sujet, j'ai l'impression que les mentalités, elles ont déjà bien changé. Donc c'est quelque chose où aussi, quand on parle de transition, de quelque chose de difficile à faire, il faut parler de comment est-ce qu'on partage l'effort de transition. Et instinctivement, ça me paraît quand même assez rationnel de dire que les pays les plus riches aujourd'hui, nous, on a beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de faire des choses très compliquées, très radicales, parce qu'on a beaucoup de filets de sécurité qui nous protègent au cas où si ça ne marche pas. Ce qui n'est pas le cas d'un pays très pauvre. Un pays très pauvre où, par exemple, l'intégralité de son budget national en fait, provient de l'exportation de produits fossiles, s'il essaye d'arrêter d'exporter des produits fossiles, bah son pays peut s'effondrer, véritablement, l'intégralité de l'économie peut s'effondrer. Ce n'est pas le cas de la France, du Luxembourg, de la Suisse, des États-Unis. Donc aujourd'hui, on devrait accepter notre responsabilité dans les pays du Nord et de se dire, bah, les stratégies les plus radicales, c'est pour nous. Et justement, de se dire, on va devoir être beaucoup plus radical que la moyenne pour permettre à ceux qui sont dans des situations vulnérables, en fait, d'avoir des marges de manœuvre beaucoup plus protectrices que celles qu'on aura ici.
Si on veut maintenant mettre en œuvre votre vision du futur, quel est le premier pas à prendre ?
Le premier pas, c'est de faire un switch complet au niveau des politiques publiques. Au lieu d'essayer de relancer la croissance, de faire des politiques de croissance, d'essayer de stimuler la production, la compétitivité, la productivité, qui sont des objectifs économiques. Donc on l'a vu, l'économie, si l'économie c'est une sous-sphère de l'économie du vivant, ça on voit, c'est beaucoup trop étroit. Donc là, il faudrait faire donc des politiques de décroissance, on l'a vu, pas pour toujours, mais pendant cette période de régime, de se dire, ah bah tiens, pendant les années qui viennent, la transition écologique est tellement importante que ça va être ça nos objectifs prioritaires. On va mettre de côté la compétitivité, la productivité, on va mettre de côté les cibles d'inflation, les paliers de croissance, la dette. On va mettre ça de côté. Ça, c'est des aspects administratifs, on va s'arranger. Ce qui est vraiment très important, c'est de réduire les mètres carrés de sol artificialisé, le nombre d'espèces qui disparaît chaque année, les mètres cubes d'eau que l'on vient prélever et les tonnes de matériaux et de carbone que l'on mobilise. Donc ça, ça serait déjà un changement de politique publique. Et bien sûr, il faut que ces politiques publiques, elles viennent informer des révolutions aussi locales à l'échelle des municipalités qui, elles aussi, vont intégrer cette finitude et se dire, ah ben tiens, si on a un budget limité, comment est-ce qu'on va l'utiliser ? Et les entreprises, pareil, au lieu de rester un petit peu dans cette course, bon, non pas à la croissance, mais à la croissance des profits, du chiffre d'affaires, cet aspect un petit peu très capitaliste, compétitif, de se dire, bah tiens, nous, on va activer nos compétences et nos infrastructures pour accélérer la transition écologique. Parce qu'on l'a vu, si la décroissance est définie comme un régime temporaire, on a tous intérêt à le faire de la manière la plus rapide possible, parce que ça nous sauvegarde le plus de ressources. Et donc, si on arrive à mobiliser, en fait, la puissance d'innovation des associations, des communautés, des entreprises, pour justement faire la transition écologique au lieu de juste produire plus, là, on peut potentiellement activer une force.
Ma toute dernière question, est-ce qu'il existe un exemple où on voit que la décroissance peut fonctionner ?
Alors, la décroissance en tant que telle, si on la définit vraiment comme une politique publique annoncée comme telle, non. Mais on arrive quand même à trouver plein de petites expériences. Ça peut être des entreprises qui viennent se dire, ah bah tiens, nous, là, on a réalisé que cette gamme de produits, là, une entreprise en France qui vient de l'annoncer, par exemple, qu'elle s'est identifiée que les lingettes pour bébé, c'était sa gamme de produits qui alourdissait le plus son empreinte. Donc, elle se dit, bon, on va arrêter de les faire. Problème, c'est aussi leur produit le plus lucratif. Donc, on arrête de les faire, ça va faire baisser notre empreinte, mais ça va aussi faire baisser notre chiffre d'affaires de 20%. On l'accepte, et là, on voit, c'est une stratégie de décroissance. Pareil, quand on regarde, c'est une tendance qui est quand même assez répandue dans beaucoup de pays, plein de personnes qui se disent, ah bah tiens, moi, je me sens très concerné par le changement climatique, je vais arrêter de manger de la viande, je vais moins prendre la voiture, je vais arrêter de prendre l'avion. Donc là, tous ces phénomènes de simplicité volontaire et de déconsommation, c'est des exemples en fait de décroissance ici, la microéconomique. Ce qui nous manque en fait, c'est le chef d'orchestre. C'est de se dire, ah bah tiens, toutes ces choses-là qui sont en train de se passer, on a beaucoup de déconsommation et de simplicité volontaire, mais on a aussi beaucoup de publicité et d'obsolescence programmée pour qui contrebalance. Est-ce qu'on ne se dirait pas, accordons nos violons et faisons cette transition écologique pendant ces quelques années qui nous permettrait de faire baisser l'empreinte écologique sous la biocapacité. C'est cette coordination aujourd'hui qui manque, et les pays commencent un petit peu à utiliser d'autres indicateurs que le PIB, les budgets bien-être par exemple en Nouvelle-Zélande, pour se dire est-ce qu'on ne peut pas faire des politiques de santé globale. Et je pense que bientôt, la prochaine étape, ça sera de se rendre compte que les politiques de santé globale doivent prendre en compte l'écologie, et qu'aujourd'hui, on va devoir passer par cette phase de décroissance, et quitte à y passer, autant l'organiser pour qu'elle se passe le mieux possible.
Timothée Parik, merci beaucoup pour la conversation.
Merci.
Ich so nerge auch viel muts merci für no lauschen auf no gucken. Das war der letzte Podcast von der ersten Saison von Podcast One Planet 20 Futures von Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Ich so nerge viel muts merci für no lauschen auf no gucken. Diskutiert weiter, wenn ich gebe dir den Podcast, weil ihr könnt alle Episoden natürlich noch gucken. Die dann nicht gelauscht hat, lauscht sie vielleicht noch für dich. Und die dir schon gelauscht hat, lauscht sie nach ein Kehr. Und da diskutiert, wenn ich gebe mehr Kontrovers mit eurer Freund, mit eurer Familie, mit eurer Kollegen über diesen Podcast. Wie weiß, vielleicht kommen wir rum. Es gibt noch viel zu beschwätzen. Ich so schon mal vielmals merci auch dem Nachhaltigkeitsrat Lützeburg für die Unterstützung, für die Organisation, dem Nathalie Schröder, an dem Sebastian für Technik. Und ja, ich meine, mein Klemmbrett brauche ich schon nicht mehr. Und da heißt es, merci an denkt drunter, One Planet, 20 Futures, Zukunft, also.